News FM.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Quand on parle d'animation socioculturelle et surtout d'animation jeunesse, on pense forcément au traditionnel BAFA, le brevet d'animateur, et aux jolies colonies de vacances si chères à Pierre Perret. Une image d'Épinal, certes toujours d'actualité, mais qui ne montre pas toute la réalité de ce domaine d'activité. Les métiers de l'animation couvrent en effet des activités socioculturelles très diverses et concernent des structures et des lieux d'accueil très variés, qu'ils soient associatifs, institutionnels ou encore communaux. L'animation jeunesse, c'est aussi un secteur d'emploi qui semble connaître des difficultés de recrutement alors que son cœur d'activité, la jeunesse, est loin d'être en crise, si ce n'est la crise d'adolescence. Plusieurs invités sont venus pour échanger avec nous sur le thème au gré de cette émission qui se déroulera en deux parties et nous commençons sans attendre en accueillant Karine Hennifer. Bonjour Karine.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Karine, vous êtes référente accueil collectif des mineurs au service jeunesse et sport, service départementaux de l'éducation nationale.
C'est ça.
Voilà. À vos côtés, Jean-Yves Chapan, responsable du service animation au CEMEA Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour à tous.
Bienvenue également.
Merci.
Je rappelle que CEMEA, ce sont les initiales pour Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active.
Exactement.
Vous allez nous présenter un petit peu plus ça dans quelques secondes. Et puis notre troisième invité pour cette première partie d'émission, c'est Christophe Domenech. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller délégué aux affaires scolaires et à l'enfance pour la ville de Saint-Martin-d'Hères.
Tout à fait.
Merci à tous les trois d'être là pour participer à cette émission aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais lancer une question un peu plus d'ordre général à vous trois. Je parlais de diversité des acteurs professionnels liés à l'encadrement de l'animation socioculturelle, en ouverture, et même d'animation et d'éducation populaire. Et là, pour le coup, vous représentez respectivement l'institutionnel, avec vous, Karine, l'éducation nationale, le secteur associatif, Jean-Yves, avec votre centre de formation, centre d'entraînement, qui est une association, et puis le territorial, avec vous, Christophe, une commune de l'agglo grenobloise. Alors, à travers vos expériences respectives, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, pour commencer, sur les métiers de l'animation aujourd'hui, peut-être en commençant par vous, Karine?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous parlez tout de suite de métiers de l'animation et de professionnels de l'animation, mais l'animation est aussi caractérisée par l'existence historique de ce que l'on appelle l'animation volontaire. Et d'ailleurs, le BAFA, qui n'est pas un diplôme justement, mais qui est le brevet le plus connu lorsque l'on parle d'animation, est un brevet de l'animation volontaire. Et il y a toute une problématique aujourd'hui précisément sur cette question-là. Est-ce que les métiers de l'animation sont bien des métiers? Et que faut-il faire de cette notion historique d'engagement? Est-ce qu'elle a encore du sens? Est-ce qu'elle a du sens uniquement pour l'encadrement des temps des vacances, avec les séjours de vacances? Ou bien est-ce qu'il faut considérer, comme c'est le cas aujourd'hui dans les fêtes, que cette notion d'engagement concerne aussi les animateurs et les animatrices des temps périscolaires, des jours de classe, du mercredi? Les organisateurs, bien souvent, comptent sur cette dimension d'engagement, ce qui se traduit par des salaires souvent peu élevés. Et il y a des revendications aujourd'hui des animateurs, animatrices, pour que leur métier soit reconnu effectivement comme un métier.
Alors, il y a différentes formations, puisque effectivement, on parlait du BAFA, donc des brevets, des certificats. Il n'y a pas à ce jour de formation autre que, vous parliez de historiquement reliée à ces brevets pour l'engagement de ceux qui se donnent dans l'animation. Donc, il n'y a pas de réelle formation école d'animateurs socioculturels.
Alors, il existe des formations professionnelles. Tout l'enjeu, certainement, dans les prochaines années, va être de développer ces formations professionnelles pour les animateurs et les animatrices des accueils périscolaires, du mercredi, mais aussi des jours de classe. Et ces formations professionnelles, elles sont organisées, alors c'est vrai, par certains lycées maintenant, avec le développement de la voie de l'apprentissage et le développement d'un bac pro animation. Elles sont développées aussi dans l'enseignement supérieur, notamment dans le cadre de l'IUT, mais elles sont développées beaucoup aussi par les associations d'éducation populaire, dont les CMEA. Donc j'ai peut-être laissé la parole à Jean-Yves qui pourra vous présenter toute la gamme des diplômes professionnels.
Eh bien voilà, donc Karine fait la transition avec vous, Jean-Yves. N'hésitez pas hein, les uns les autres, Dominique oui. aussi, Christophe, si vous souhaitez réagir. Voilà, n'attendez pas que je vous donne forcément la parole, vous me faites un petit signe et vous pouvez bien sûr intervenir les uns par rapport aux autres. Alors, les CMEA, les centres d'entraînement, hein, c'est la signification, aux méthodes d'éducation active. Alors déjà, quelques mots pour nous préciser un peu ce que ça veut dire, l'éducation active, et puis pour présenter de manière plus générale les CMEA.
Oui, bien sûr. Alors une présentation rapide des CMEA, ce centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui est effectivement un organisme de formation. Cet organisme de formation donc est présent sur l'ensemble des territoires nationaux, l'ensemble des régions. Au niveau de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons une présence significative sur Pont-de-Clé, puisque le siège social des CMEA Rhône-Alpes se trouve sur Pont-de-Clé. Et nous sommes, comme ça vient d'être précisé, très impliqués dans la structuration, l'organisation, la mise en place des formations au métier de l'animation, avec des stages BAFA, BAFD, donc brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, directrice d'accueil collectif de mineurs, qui représentent, par rapport à ce que vient d'évoquer donc Karine, l'engagement lié à l'animation volontaire. Et ensuite, on développe au sein de l'association des CMEA la structuration de l'ensemble des formations liées aux formations professionnelles concernant les métiers de l'animation. Donc la première entrée et le premier axe de formation, c'est ce qu'on appelle le CPGEP, le certificat de professionnalisation, qui est le premier niveau de formation. C'est un niveau qui est accessible à partir de 16 ans. Et ensuite, nous avons le BPGEPS, le DEGEPS et le DESGEPS, qui sont donc les diplômes d'état supérieurs liés à l'animation et au métier de l'animation professionnelle.
Alors, Karine commençait déjà à aborder un aspect de réflexion, un axe de réflexion autour de ces métiers, entre guillemets, on va mettre des guillemets pour l'instant. Est-ce que vous partagez la petite analyse
Ah oui, Karine complètement. C'est un avis qui est complètement partagé. Le questionnement de la professionnalisation va être, je pense, de plus en plus marqué, la revalorisation aussi du métier également. Mais ce qu'on peut peut-être constater aussi par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport à l'engagement des personnes dans ce travail et ces fonctions éducatives, c'est qu'on constate quand même qu'il y a toujours la volonté chez les jeunes, à partir de 17 ans, de 18 ans, de rejoindre les formations liées au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. On a quand même un nombre de jeunes qui s'engagent de façon significative dans ces formations avec la volonté d'aller se professionnaliser. Souvent, la première entrée, ça peut être le BAFA. On part en BAFA pour découvrir un petit peu ces métiers de l'animation. Et ensuite, on peut partir et rentrer sur des formations professionnelles type CPGEPS ou BPGEPS pour vraiment donner une dimension professionnelle à cet engagement.
On va peut-être, voilà, oui. Christophe, vous souhaitez réagir.
Oui, non, parce que moi, en tant qu'élu, cette question-là, elle s'est un peu posée de manière un peu différente pour nous. Nous, on s'est posé la question, enfin, en tant qu'élu, je me suis posé la question avec mes collègues de la question du temps de l'enfant, de comment ce temps de l'enfant, il pouvait être structuré sur notre commune. Et c'est vrai qu'on a, en 2014, lorsque la réforme des rythmes scolaires, quoi qu'on en pense de cette réforme-là, est venu s'imposer à nous, ça nous a aussi permis de réfléchir un peu comment les temps de l'enfant étaient organisés sur la ville, comment nous, à Saint-Martin-d'Hères, on a fait le choix de la municipalisation pour gérer en direct ces temps de l'enfant, ce qui nous a aussi permis d'avoir une réflexion pour dire à cette époque-là, de se dire qu'il nous fallait des temps pleins, qu'il nous fallait donner à tous ces animateurs et à tous ces agents des conditions de travail qui soient pas que des temps partiels. Donc on a essayé de construire, grâce à cette réforme des rythmes scolaires, en municipalisant, c'est-à-dire du coup en ayant l'étendue périscolaire, de l'extrascolaire, de la pause méridienne et de tous ces temps-là, d'avoir des agents qui travaillent et qui travaillent sur tous ces temps. Ce qui a permis, mais évidemment pas sur tous, de créer des postes de titulaires à temps plein sur la ville pour encadrer en fait tous ces temps de l'enfant. Je rentre pas dans les détails, mais on pourra y revenir après si vous le souhaitez. Ça règle pas tous les problèmes, puisqu'il y a la question des vacataires qui est encore là, qui est posée, la nature de leur rémunération et la nature de leur statut qui se pose. Et je suis d'accord sur ce qui a été dit avant, mais voilà, on a essayé à travers une réflexion globale des temps de l'enfant de pouvoir donner des temps pleins. Alors après, ben il y a sûrement besoin au fil du temps de se recadrer, de se repositionner, en sachant que même s'il y a la question de l'engagement, moi je l'entends et effectivement il faut réfléchir à qu'est-ce que signifient ces métiers qui sont particuliers, parce que c'est des métiers qui sont sur de l'humain. On vient toucher à l'humain, on vient toucher à l'éducatif. Comment on accompagne cette jeunesse dont on dit qu'aujourd'hui elle peut être en difficulté. La question du Covid qui vient aujourd'hui j'ai pas les chiffres en tête, mais on a quand même des situations de mal-être, de difficultés à vivre liées à ce que le Covid apporte dans notre société, où justement tous ces agents sur le terrain, tous ces animateurs qui viennent travailler sur les temps de l'enfant, sur la jeunesse, ils ont un rôle essentiel, me semble-t-il, pour faire en sorte que cette jeunesse se porte bien. Donc, il faut leur donner des conditions de travail qui leur permettent eux-mêmes d'être bien, parce que sinon, ça se mord la queue et ça peut pas avancer. Après, en dehors de la question de l'engagement, parce que c'est des métiers particuliers qui sont sur l'humain, on a aussi besoin de formation. On a besoin, parce que c'est évident que acquérir une posture professionnelle dans le cadre d'encadrement d'enfants, de la jeunesse, ça ne s'invente pas. Donc cette question de comment on réfléchit pour construire des parcours professionnalisants, faut qu'elle se pose là. À Saint-Martin-d'Hères, on a, avec les CMA d'ailleurs, on a travaillé pour voir comment on pouvait accompagner des jeunes pour proposer des lieux de stage, pour proposer des choses comme ça qui existent sur notre terrain. Comment on sécurise un peu ces parcours pour professionnels et ensuite offrir de l'emploi. Tout n'est pas réglé. Je redis, la question des vacataires, elle n'est pas satisfaisante et il y a des choses à réfléchir là-dessus. Mais voilà, on essaye d'avancer pas après pas.
Si on prend l'exemple donc de la ville de Saint-Martin-d'Hères, quels sont les différents lieux d'accueil où il y a des animateurs? Est-ce que ce sont systématiquement des jeunes qui occupent ces postes d'animation, ou ça, on peut aussi postuler quand on est moins jeune?
Alors on peut aussi postuler quand on est moins jeune, parce que c'est pas une question d'âge, y compris, je vais être très honnête avec vous, au vu des difficultés qu'on peut avoir à recruter aujourd'hui, cette question-là, elle se pose pas vraiment. Donc oui, c'est pas une question d'âge, c'est des métiers qui généralement attirent plutôt des jeunes, donc on a plutôt une moyenne d'âge qui est jeune. Je vais le dire comme ça, et je me suis perdu dans votre question.
Sur les différents types de lieux sur Saint-Martin-d'Hères.
Oui. L'idée de la municipalisation était juste, et d'avoir ces temps pleins, était de dire que, en fait, aujourd'hui, les agents de la ville, qui sont recrutés par la ville sur ces temps-là, travaillent aujourd'hui sur le périscolaire et sur l'extrascolaire. C'est-à-dire, en même temps, on a des agents qui sont en même temps dans le périscolaire, donc à côté de l'école, le matin, le midi, le soir. Et ensuite, pendant les périodes de vacances, dans nos accueils de loisirs, dont on a fait le choix qu'elles se situaient, y compris dans nos groupes scolaires.
D'accord.
Et dans l'idée de construire ainsi, y compris des repères pour les jeunes, parce que on arrive à construire aussi des temps de vacances. La jeunesse, c'est aussi des contacts humains et c'est aussi des connaissances qui font que lorsque le jeune a tout au long de l'année fréquenté une équipe d'animation sur le temps périscolaire, l'a retrouvé pendant les vacances scolaires sur les accueils de loisirs, c'est aussi quelque chose qui rassure et les enfants et les familles.
Si on poursuit donc un peu cet état des lieux hein, sur ces métiers de l'animation socioculturelle, donc Karine, vous avez d'emblée abordé la question de la professionnalisation, du besoin de reconnaissance professionnelle tout simplement de ces activités. Je parlais aussi parce que il me semble avoir compris que il y a un problème de recrutement et Christophe, vous le rappeliez aussi qu'il y a moins de jeunes qui se tournent vers ces postes d'animation. Alors il y a un problème de lié au Covid où c'est de manière générale les jeunes s'intéressent moins à l'animation jeunesse ou socioculturelle.
Alors, il y a un effet conjoncturel, bien sûr, hein, et les difficultés de recrutement, d'ailleurs, ne concernent pas que le champ de l'animation, concernent tous les métiers de l'éducation et même tous les métiers du lien et de l'humain, et même peut-être au-delà de ces métiers. L'effet conjoncturel vient aussi du fait qu'un certain nombre de sessions, notamment BAFA, n'ont pas pu se faire en 2020 et en 2021. Sur le département de l'Isère, les années ordinaires, nous distribuons plus de 800 BAFA, et en 2020, nous n'en avons distribué que 200. Donc là, évidemment,
c'est énorme.
Ça fait un écart très important qui explique déjà une partie du problème. Donc là, il y aura un effet rattrapage, voilà, avec beaucoup de jeunes hein, là qui entrent dans les sessions BAFA. Les organismes de formation ont dû parfois dupliquer leurs propositions pour répondre à la demande. Donc la demande des jeunes est toujours présente. Les difficultés de recrutement peuvent venir aussi de l'intérêt des postes qui leur sont proposés. Là, nous avons le témoignage d'une collectivité qui à la fois reconnaît la valeur éducative de ces temps d'animation et puis qui, comme Jean-Christophe vous l'a expliqué, s'est donné les moyens de permettre des postes intéressants aux personnes et intéressants pas seulement sur le plan financier, parce que c'est aussi la nature des expériences que ces personnes peuvent vivre avec les enfants ou les adolescents. Ce qui se vit sur un temps de vacances et dans le cadre d'un séjour, évidemment, est beaucoup plus riche que ce qui peut se vivre sur l'accueil périscolaire après la classe ou sur le temps de pause méridienne. Et malheureusement, aujourd'hui, trop peu d'accueils périscolaires fonctionnent avec des animateurs animatrices. Alors d'abord, sur certains accueils, il n'y a pas toujours les titulaires encore, comme c'est le cas sur la ville de Saint-Martin-d'Hères. Hein. Parfois, ce sont uniquement des personnes sur des CDD avec un turnover important. Et bien souvent, ces personnes-là ne font que ces quelques heures du périscolaire des jours de classe, sans avoir cette possibilité d'intervenir sur les accueils du mercredi ou des vacances. Ça, c'est lié souvent à ce que les organisateurs sont différents. Donc, la municipalisation des centres de loisirs peut résoudre le problème. Ça pose aussi la question du maintien de la vie associative. Ce qui est intéressant, c'est que sur certaines communes, la collectivité, voire les collectivités, parce que sur les territoires ruraux, il y a aussi une implication des communautés de communes, ce qui est intéressant, c'est que ces collectivités se rapprochent aussi des associations qui organisent les centres de loisirs ou les séjours les mercredis ou les vacances et arrivent à proposer des postes pour permettre aux personnes voilà, de travailler à la fois dans ce cadre périscolaire pour la collectivité et à la fois dans le cadre extrascolaire ou périscolaire du mercredi dans un cadre associatif. Ça, c'est possible. Ça nécessite évidemment que les partenaires se mettent autour de la table en attachant de l'importance à cette question et la volonté de résoudre cette problématique. Mais tout le monde y gagne forcément. D'autant plus que lorsque des séjours se développent sur un territoire, ça veut dire que cette culture de l'animation se développe aussi parmi les enfants et les jeunes qui bénéficient de ces séjours et ça crée une sorte de cercle vertueux. Puisque c'est aussi en vivant ces expériences-là que, en grandissant, ils et elles vont avoir envie peut-être d'aller vers ces métiers de l'animation. Donc la politique des collectivités, il ne faut pas qu'elle se centre uniquement sur le périscolaire. La réforme des rythmes scolaires en 2013 a permis que les collectivités s'emparent des questions éducatives, s'emparent de cette question du périscolaire. mais il faut aujourd'hui qu'elles abordent plus largement la problématique de l'enfance et de la jeunesse, en n'oubliant pas cette question des vacances et des séjours. Trop peu d'enfants aujourd'hui, 3 millions d'enfants dans notre pays ne partent pas en vacances. Donc la question des séjours collectifs, de leur accès pour tous les enfants, continue à se poser.
Jean-Yves Chapin, j'imagine que l'évolution, les mutations un petit peu liées ces métiers hein, de l'animation, vous êtes sur le front, vous êtes les premiers, les organismes de formation à pouvoir évaluer un petit peu ça, à pouvoir observer. Donc on parlait là, à l'instant peut-être d'un désintérêt conjoncturel ou peut-être plus durable des jeunes vers ce genre d'activité. Quel regard vous portez là-dessus ?
Oui, alors effectivement, on peut déjà préciser qu'on a une filière de l'animation maintenant qui est bien construite et qui est bien identifiée pour permettre aux jeunes de se familiariser avec les métiers de l'animation et d'aller ensuite se professionnaliser. Nous, par rapport à ce que vous venez d'évoquer concernant l'entrée en formation, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des CMEA, si on prend les 10 dernières années, on constate qu'au niveau des formations liées au métier de l'animation, notamment sur le BAFA, donc l'animation volontaire, on a à peu près le même nombre de jeunes qui rentrent chaque année en formation. Et on n'a pas de perte de fréquentation des formations. Donc, c'est qu'il y a quand même un volume de jeunes, un nombre de stagiaires qui rentrent en formation, qui ont la volonté de rentrer sur ces dynamiques de formation liées à l'animation. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui terminent leur formation. Alors, pour différentes raisons, certes, il peut y avoir des réorientations, il peut y avoir la volonté de partir sur autre chose, bien évidemment. Ça peut être des aspects financiers. Et encore, il y a énormément de systèmes d'accompagnement maintenant qui permettent aux jeunes de rentrer en formation et d'être accompagnés financièrement. Par contre, souvent, ce que l'on constate, c'est qu'en rentrant sur la formation BAFA, les jeunes sont partis après sur le terrain. Et des fois, sur le terrain, on leur a demandé quand même des responsabilités importantes en termes d'éducation, hein, de prendre une part significative à l'accompagnement éducatif des jeunes dans les différentes structures dans lesquelles ils sont. On parle de l'accompagnement des jeunes, mais cette action éducative, elle est aussi tournée vers les familles. Donc, il faut accompagner tout un environnement. Et des fois, prendre en charge la globalité de ces aspects, ça peut peut-être freiner un petit peu les jeunes ensuite pour continuer et s'engager professionnellement dans les métiers de l'animation. Donc, et pourquoi je dis ça ? Parce que on se rend compte aussi des fois que l'accompagnement sur le terrain peut être un petit peu délicat et il se retrouve des fois dans des environnements où il n'y a pas forcément de reconnaissance. Des fois, c'est un peu compliqué. Les environnements peuvent être un peu compliqués et avoir de la reconnaissance dans ce qu'on a fait. On le disait à travers ça peut être à travers le salaire, Karine en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi la reconnaissance de la personne dans cet engagement éducatif. Des fois, les personnes ont un petit peu du mal à s'y retrouver, et ça peut être un petit peu compliqué, donc c'est à nous de retravailler sur ces aspects-là, redonner du sens à cet engagement éducatif et accompagner, mais comme on le disait, les collectivités pour, à travers les politiques jeunesse, re-questionner cet engagement des jeunes et revaloriser un peu cet engagement éducatif.
Alors, vous parliez de responsabilités hein, qui sont portées par les animateurs eux-mêmes, jeunes ou moins jeunes, et parfois même très jeunes, puisque ça peut commencer dès 16 ans. Hein,
tout à fait, sur les formations professionnelles, on peut démarrer à 16 ans. Le BAFA, lui, est à partir de 17 ans.
D'accord. Et il y a une notion d'ouverture à la citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté, à la fois portée par les jeunes animateurs. Ça les concerne aussi, cette ouverture à la citoyenneté. Et puis, évidemment, le public qu'ils vont croiser. Peut-être pour terminer notre première partie, parce qu'il va falloir qu'on fasse une petite pause et ensuite recevoir les autres invités, juste quelques mots par rapport à ce lien entre l'animation socioculturelle et la responsabilisation citoyenne. C'est aussi quelque chose qui est toujours là, présente dans tous les aspects de réflexion et d'accompagnement de ces métiers.
Lorsque les jeunes découvrent l'animation, en fait, ils découvrent un domaine où vit la valeur du collectif, qui n'existe pas finalement dans beaucoup d'autres lieux de la société. Hein. Nous avons quand même des sociétés assez individualistes, tournées vers d'autres valeurs peut-être que le lien entre les personnes et les relations. Et les jeunes qui découvrent l'animation, bien souvent, lorsque ils ou elles accrochent à ça, c'est lié à cette dimension-là, cette valeur relationnelle. Avant même de parler des grands mots et de la citoyenneté, c'est déjà ça, c'est la relation entre les personnes et comment on peut ensemble inventer les projets les plus fous et les faire vivre avec du plaisir, de l'humour, de la joie. C'est quand même un des rares métiers, effectivement. C'est pour ça, parfois, qu'on considère que ça n'est pas un métier, parce que, malheureusement, dans notre société, c'est lieu à la fois de relations, de joie et de possibilités de création existent assez peu. Donc, avant même de parler de citoyenneté, ça me semble important de faire apparaître ces éléments-là.
Christophe, Dominique.
Je vais aller dans le même sens en disant qu'il y a quand même quelque chose qui peut être qui se passe et qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est le lieu où tous les enfants sont. Nous à Saint-Martin-d'Hères, on a quand même beaucoup des enfants de la commune qui sont dans les périscolaires, qui sont dans les accueils de loisirs. Il y a donc, alors pas de manière parfaite, une forme de mixité sociale qui existe. Donc la question du vivre ensemble, elle est fondamentale. Et c'est bien à cet endroit-là qu'on apprend ça. On a voulu à Saint-Martin-d'Hères mettre en avant quelque chose d'assez fort, c'est la question de l'accueil des enfants porteurs de handicap, dans une logique de dire c'est aussi un endroit où on retrouve tout le monde et un endroit où on doit tous vivre les uns avec les autres comme on est, dans le cas du handicap parfois avec des difficultés, et comment on arrive à faire en se croisant, se mélangeant, à apprendre à vivre ensemble, et je trouve que c'est très d'actualité en ce moment.
Oui, bien sûr, Jean-Yves.
Et puis, ce qu'on peut soulever aussi quand on reçoit les personnes en formation, c'est qu'on a la volonté, oui, de former les personnes par rapport à des fonctions qu'ils vont assumer, celle d'être animateur, animatrice, mais on se rend compte que c'est surtout, et c'est ce que l'on défend, que ces formations sont aussi des formations à la personne, où les formations vont amener les gens à prendre des responsabilités, et prendre des responsabilités quand on a 17 ans, interroger ses conceptions éducatives, réinterroger effectivement ce qui vient d'être dit sur le vivre ensemble. C'est une vraie formation, oui, la vraie formation du citoyen, de la personne responsable, au regard de ses fonctions éducatives.
Juste pour terminer, par rapport à ces notions importantes, est-ce que les brevets, les certificats, toutes ces formations, est-ce que ça a évolué au cours des décennies? Pour en prendre en compte un petit peu aussi l'évolution de la société, ou est-ce que le BAFA, c'est le même qu'il y a 40 ans ?
Alors, le BAFA est né en 1936, à peu près, 1936-1937.
J'ai pas voulu
remonter trop loin. Le Front Populaire. Les CMA sont à l'origine de la création du BAFA. Et ce BAFA, qui ne s'appelait pas le BAFA à l'époque, donc effectivement, a eu une évolution au regard de ses contenus, bien évidemment, de ses durées, de sa construction. Les métiers de l'animation professionnelle ont évolué également au regard de ce que l'on traverse au niveau social. Donc il y a une évolution effectivement significative. Il y a de nouveaux diplômes qui sont arrivés dans le cadre des métiers de l'animation, pour accompagner au mieux les structures et les préoccupations éducatives que nous pouvons avoir actuellement.
Merci à tous les trois d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et puis on se recroisera très certainement au gré d'une émission, pour revenir sur sur les sujets qui vous concernent. Bonne continuation dans vos activités. On va faire une pause musicale. Je vous laisse peut-être juste un mot de la fin si il y a quelque chose que qu'on n'a pas abordé qui vous semblait important avant que qu'on fasse cette pause.
Juste non, sur, bon, oui, sur les diplômes, il y a aussi un lien qui existe entre les diplômes du sport et de la culture et ceux de l'animation. Donc des personnes qui sont titulaires d'un brevet sportif ou culturel peuvent se qualifier pour même diriger un accueil collectif de mineurs.
Eh bien merci, donc voilà, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer à parler de, du thème de cette voie de l'emploi aujourd'hui. Les métiers de l'animation socio-culturelle. À tout de suite.
Ouais, Louis, c'est pour toi ça. Écoute. Je suis pas Oxmo, mais au moins j'ai mes idées. Y'a personne qui l'a fait. Igo, moi, je me suis invité. Je suis remarqué comme une femme voilée dans le C. Oui, c'est possible. Peut-être je vais les choquer, je suis mal fait comme un croquis. Et dans la pomme j'ai croqué, je le répète, j'ai expiré pour ensuite espérer. D'en sortir j'ai rêvé, mais combien de rêves deviennent réalité. Si quelqu'un m'écoute, j'aimerais qu'il vienne nous aider. Dans nos quartiers défavorisés, faire 9 étages à pied. À la Villeneuve, le nettoyeur, arrêtez de nettoyer. Ça fait trop longtemps que nos mères ont arrêté d'espérer. Elles ont quitté leur sommier pour venir aspirer. C'est possible. Mais tu n'y crois pas, je vais te montrer le rap de la rue. Le rap qui ne vient pas de chez toi, hein. C'est possible. Mais on n'y croit pas, je vais te montrer le rap de la rue. Le rap qui ne vient pas de chez toi, ouais. C'est possible. Mais tu n'y crois pas. C'est possible. Mais on n'y croit pas. C'est possible. Mais tu n'y crois pas, je vais te montrer le rap de la rue. Le rap qui ne vient pas de chez toi. Ils parlent tous de la rue, mais ils ont jamais vu une douille. Que le bonheur m'accompagne, ou pas moi je m'en balais. Ça fait trop longtemps que je l'attends, peut-être qu'il est déjà parti. J'étais même pas encore vivant quand m'a coincé dans les orties. Et mon blasé pas Naël, c'est bien l'autre fille. Je suis venu faire l'honneur de ma mère et choquer le rap aussi. On m'a donné toutes mes chances, non je peux pas rester assis. Certains disent que la vie est dure, donc ils font tout pour pas la vivre. C'est possible, mais tu n'y crois pas. Je vais te montrer le rap de la rue, le rap qui ne vient pas de chez toi, hein. C'est possible. Mais on n'y croit pas, je vais te montrer le rap de la rue, le rap qui ne vient pas de chez toi, ouais. C'est possible, mais tu n'y crois pas. C'est possible, mais on n'y croit pas. C'est possible, mais tu n'y crois pas. Je vais te montrer le rap de la rue, le rap qui ne vient pas de chez toi.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. Voilà, on retrouve la suite de cette voie de l'emploi. Aujourd'hui sur News FM, nous parlons des métiers liés à l'animation jeunesse, l'animation socio-culturelle. Nous passons à un deuxième plateau invité. Alors nous retrouvons Karine et Nifer, toujours avec nous pour... vous êtes référente des accueils collectifs de mineurs, hein, service jeunesse et sport, service départemental de l'éducation nationale. Voilà, donc...
C'est ça.
Merci d'être encore avec nous. Et puis, nous accueillons maintenant Tristan Fromenteau, directeur du CLC des Bains, le Centre Loisirs et Culture. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Et bienvenue sur l'antenne de News FM.
Merci.
Et puis également, nous avons Jimmy Delors. Salut Jimmy.
Salut.
Qui est un habitué de News FM. En général, tu viens plutôt avec ta casquette artiste,
exactement,
rappeur.
Exactement.
Là, c'est en tant que, qu'animateur, puisque ça fait un moment déjà que tu es investi, que tu t'engages au sein de la MJC des
Snooks. Tout à fait.
Des Chirols.
Tout à fait.
Voilà,
c'est ça.
Donc on l'a dit, tu vas être porte-parole, parce que normalement, on aurait dû avoir ton boss avec nous, mais il n'a pas pu venir. Donc tu vas nous parler de ton expérience et puis voir un petit peu comment ça se passe du point de vue de la MJC. Alors je voulais juste peut-être pour commencer vous demander vos réactions à vous, Tristan, Jimmy. Vous avez entendu un petit peu ce qui a été dit lors de la première partie. Peut-être rebondir par rapport à la dernière question. On parlait de ce lien entre l'animation socioculturelle, l'animation jeunesse et la citoyenneté. Donc Tristan en tant que responsable d'un lieu d'accueil, hein, Centre Loisirs et Culture, et Jimmy par rapport à ton expérience en MJC, forcément c'est quelque chose que vous constatez aussi au quotidien.
Tout à fait, oui. Donc alors au niveau de l'association du CLC, effectivement c'est quelque chose nous qu'on Enfin, on tient effectivement à ce qui a été très bien développé sur la première partie, à valoriser toute la question de l'engagement éducatif en tant que tel, et qui peut effectivement être ensuite une première, enfin être une première entrée qui va mener ensuite à une envie de professionnalisation. Et confirmer, enfin voilà, je souscris totalement à ce qui a été dit, c'est-à-dire que, enfin pour l'association, un jeune ou moins jeune, mais qui va s'engager dans une mission d'animation, il va effectivement s'engager, vivre une expérience enrichissante, enfin c'est un vrai engagement social. C'est aussi quelque chose qui va être très enrichissant pour lui, puisque c'est souvent une première expérience de prise de responsabilité, et dans une dimension collective. Donc j'ai presque envie de dire, c'est quelqu'un qui va s'engager dans un domaine où il va œuvrer pour sa dimension citoyenne, et la nature même de cet engagement est déjà une démarche citoyenne. Et effectivement, on peut le dire, au CLC, mais comme sur plein d'autres territoires, des fois on a une image un peu, certains peuvent avoir une image un peu dénigrante de la jeunesse, mais tous les jours, partout en France, il y a des centaines, des milliers de jeunes qui sont là au quotidien, qui sont présents dès 8 heures dans le cadre d'un réel engagement éducatif, mais qui n'est rien d'autre qu'un engagement citoyen.
Que ce soit... tu peux réagir aussi, si ouais, tu ouais, le souhaites, Jimmy.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit en première partie et ce que Tristan a dit. Pour moi, je le vois même en deux parties. C'est que le jeune qui va commencer à être animateur, bah forcément, lui, va s'engager dans une forme de citoyenneté, dans un premier temps. Et dans un second temps, bah, les jeunes avec qui il va travailler va aussi les solliciter et les inciter à s'engager eux-mêmes dans leur citoyenneté de par des activités, des projets et tout ce qui va avec.
Que ce soit pour le CLC ou la MJC d'Esnos à Échirol, vous travaillez avec combien d'animateurs en ce moment, Tristan?
Alors, pour le CLC, on a deux niveaux d'équipe qui sont sur une dynamique qu'on trouve assez pertinente. On a donc une équipe qui est permanente, donc là d'animateurs qui vont être en CDI, qui vont travailler chez nous toute l'année. Alors pas sur un contrat à temps plein, on pourra y revenir, mais ça a été évoqué un petit peu en début d'émission, mais sur des contrats à temps partiel annualisés, donc des gens qui vont être présents tous les mercredis et sur une partie des périodes de vacances scolaires, qui nous permet d'accueillir, de répondre à la demande d'accueil des familles sur ces périodes, notamment des mercredis. Et pendant les périodes de vacances scolaires, on va là avoir des gens qui vont renforcer ces équipes dans le cadre d'un engagement éducatif, donc des animateurs volontaires qui sont pour la plupart étudiants, lycéens, voilà, des jeunes qui vont s'engager ponctuellement dans cette mission. On a vraiment, qu'on ne peut que remercier cet engagement, le valoriser au mieux financièrement, entre autres, mais aussi, je pense, par tout ce qui va relever un petit peu comment on va valoriser leur engagement, en fait, la personne, son engagement, déjà des fois tout simplement en verbalisant aussi que c'est aussi bien parce que ces gens-là vont venir s'engager ponctuellement sur une période donnée, que en face ça va permettre aussi un accès aux loisirs pour tous, parce qu'on parle de la question du coût qui est le nerf de la guerre, mais c'est effectivement, on est bien pris dans ces enjeux-là, ces enjeux financiers, comment on accueille le plus d'enfants possible en faisant en sorte que l'aspect financier ne soit pas un frein à cet accès à l'activité pour les enfants. Donc effectivement, on a besoin de cet engagement, mais on est aussi attentif à ne pas leurrer les gens. C'est-à-dire qu'il y a bien l'équipe occasionnelle qui s'engage ponctuellement et qui est essentielle, mais elle ne pourrait pas fonctionner non plus sans cette équipe permanente qui est présente à l'année, qui s'engage, dans une régularité, on est plus dans l'engagement ponctuel, qui va aussi, de fait, de par sa présence à plus long terme, avoir forcément une meilleure connaissance du projet, du public, des familles. Et là, on arrive, sur les périodes de vacances notamment, à une dynamique qui est très intéressante entre des gens qui sont formés permanents, mais qui vont compléter un peu leur... l'arrivée d'animateurs occasionnels va forcément venir enrichir toute cette dimension collective.
Jimmy, du côté de la MJC, alors, SNOS, comment ça s'organise?
Nous, sur la MJC, on est 3 animateurs permanents, en plus du directeur. Et après, sur les temps de vacances, pareil, on engage des animateurs volontaires qui sont sur les vacances. Après, les effectifs varient selon les vacances aussi, mais généralement, on a 3 ou 4 animateurs en plus sur les temps de vacances.
Quand vous, alors je sais pas si Jimmy, tu interviens au niveau du recrutement quand il y a des nouveaux qui postulent ou pas, Par contre, Tristan, évidemment, c'est de votre responsabilité avec votre équipe. Donc, quand vous recevez des nouveaux animateurs, comment vous les évaluez un petit peu, vous les jaugez? Quelles sont les qualités que vous avez envie de voir tout de suite percer chez un animateur, une animatrice?
Je vais.
Vas-y.
Moi, je suis. Ça m'arrive de soumettre des animateurs à mon équipe quand on est en recrue d'animateurs sur les vacances. Moi, j'ai participé à des entretiens il y a 2 ans dans le cadre de mon BPJEPS où j'avais justement l'UC de direction. Du coup, c'était moi qui étais le directeur sur le centre de loisirs pendant une période de 18 jours. Et du coup, je devais recruter mon équipe. Du coup, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vécu des entretiens en tant que, pas en tant qu'animateur qui postule dans une structure. Et ça passe beaucoup par de la discussion. On fait lire le projet pédagogique de la structure, le projet associatif, et après c'est un échange avec la personne et c'est voir ses motivations directement dans la discussion, voir aussi si l'animateur en face de nous a des compétences, mais a un champ d'activité propre à lui. Peut-être qu'il est plus à l'aise dans des activités manuelles ou des activités sportives ou des activités artistiques. C'est des grosses choses à prendre en compte pour justement après aussi construire avec lui et l'accompagner au mieux dans sa période, soit de stage si c'est un stage pratique ou dans son développement dans le métier d'animateur. Et c'est pour moi super important parce que pendant ma direction, justement, c'est des choses sur lesquelles j'ai su m'appuyer pour mettre à l'aise les animateurs et pour solidifier le programme d'activité, on va dire.
Karine, n'hésitez pas à réagir hein, si vous voulez commenter quelque chose. Tristan, alors, du point de vue des qualités que vous avez envie de voir tout de suite percer chez une animatrice.
C'est un exercice effectivement qui est toujours un peu périlleux entre guillemets, puisque effectivement il va s'agir de recruter une personne, d'identifier la personne à qui on va ensuite qui va assumer la responsabilité d'enfant. Voilà, les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher à leurs yeux, leurs enfants. Donc il y a un enjeu certain sur cette phase de recrutement. Et il va falloir du coup arriver à estimer sur cette phase-là à la fois la capacité de la personne, ce que Jean-Yves Chapin évoquait en première partie, la capacité de la personne à assumer les fonctions d'animation, voilà, qui sont cadrées sur tout un tas de choses à savoir mettre en œuvre. Estimer la capacité de la personne, c'est aussi une fonction, mais à garantir la sécurité des enfants. Et en plus de ça, on l'a dit, l'animateur, c'est pas un simple exécutant. C'est aussi quelqu'un qui va porter un projet politique, au sens noble du terme, mais plutôt un projet éducatif, des valeurs éducatives, qui va assumer un rôle éducatif. Donc, il va falloir à la fois qu'on arrive à mesurer cette capacité à assumer les fonctions. Et est-ce que sur des valeurs éducatives, cette personne va être réellement en capacité de partager et de porter le projet que l'organisateur met en œuvre. Donc, on est sur un double exercice, du coup sur ces phases de recrutement qui sont toujours je disais un peu pas périlleuses mais sur lesquelles on est très attentif et on consacre le temps nécessaire. Effectivement, on est sur Jimmy l'a évoqué, il y a toute une phase aussi un petit peu qu'on pourrait appeler du feeling hein, mais qui est pas l'unique entrée, mais voilà, c'est comment aussi dans la discussion, la relation sur un temps donné, il va falloir prendre une décision de recruter ou non cette personne.
Karine, vous êtes en lien avec de nombreuses structures et donc des équipes de dirigeantes aussi. Quel regard vous portez sur cette phase de recrutement, sur les qualités que les jeunes doivent mettre en avant pour peut-être même dès le départ pour s'engager dans une formation d'animateur, d'animatrice?
Alors, ils ont tous les deux très bien exposé ce qui peut être attendu lors d'un recrutement. Nous, on n'intervient pas sur cette phase-là. Nous, on va intervenir auprès des organisateurs, plutôt des accueils, pour qu'ils accompagnent au mieux les stagiaires BAFA lorsqu'ils en accueillent sur leur centre. Et nous proposons des séances de formation continue pour les directeurs, directrices des accueils, en partenariat avec les associations d'éducation populaire, dont les CMEA, pour que l'accompagnement des stagiaires et plus largement des jeunes animateurs, animatrices, se fasse au mieux sur le terrain. Et puis aussi, nous veillons à ce que les directeurs et directrices puissent recruter leurs équipes. Là, il y a un petit sujet parce que dans les fonctionnements des associations ou des collectivités, ça n'est pas toujours le cas. Et il me semble vraiment important que le directeur ou la directrice du séjour puisse recruter son équipe, à la fois pour avoir peut-être ce bon feeling avec chaque personne de son équipe. On est quand même vraiment dans de l'humain et du relationnel. Et puis, pour recruter une équipe qui fonctionne bien ensemble, qui soit complémentaire. Et ça peut poser des problèmes lorsque le recrutement n'est pas fait par les directeurs et les directrices des séjours ou des accueils.
Donc, il faut qu'il y ait un maximum d'autonomie laissée aux responsables de structure. Donc, je vois que Tristan acquiesce. Le CLC est installé sur la commune des Bains. Ça veut dire qu'il y a quand même une relation étroite entre votre équipe et la ville, l'équipe communale.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est essentiel pour le bon fonctionnement de la prise en charge des enfants sur leurs différents temps. Le CLC, effectivement, sur Ebain, la municipalité a fait le choix de confier l'organisation des temps extrascolaires et une partie des temps périscolaires, notamment le mercredi, à une association, en l'occurrence le CLC. Mais ça permet du coup d'évoquer, enfin peut-être de rejoindre aussi un petit peu ce qui était évoqué en première partie sur la question des contrats. Enfin voilà, l'importance de toute façon de travailler ensemble, d'être cohérent, puisque le CLC va venir œuvrer sur le territoire au service d'un projet politique aussi. Donc il faut aussi qu'on se retrouve sur les intentions, sur les valeurs qu'on va porter, les valeurs éducatives notamment. Et c'est d'autant plus important si après on aborde aussi la question de l'emploi et de comment on arrive au mieux à proposer des temps complets ou avoir des professions qui se rapprochent d'un temps complet. Nous, CLC, on va avoir ce qu'on a à proposer, ça pourrait correspondre à un mi-temps. Sur la ville qui, elle, organise les temps périscolaires autour de l'école, la ville propose également à peu près un mi-temps. Donc, l'idée, c'est de voir, voilà, comment, un animateur qui va travailler avec la ville, on va peut-être, nous, au CLC, quand il va postuler, avoir une attention peut-être un peu plus particulière. Dans le souci, déjà en premier lieu de pouvoir proposer un contrat quasi, enfin que la personne puisse travailler au moins à quasi temps plein sur le territoire, mais aussi dans un souci un petit peu de cohérence éducative. Et je pense que ça c'est quelque chose, un aspect qui est important. Il faut de toute façon qu'on travaille avec la collectivité, avec la ville, pour que pour les enfants et pour les animateurs, je dirais s'il y a une cohérence éducative sur tous les temps de l'enfant, parce qu'un enfant dans une journée, il va passer le matin en périscolaire à l'école, après il va être avec un enseignant, à midi à la cantine, il va peut-être être avec encore d'autres équipes, le mercredi encore d'autres adultes, et si tous ces gens ne se parlent pas ensemble et ne réfléchissent pas un petit peu sur qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation de nos enfants, on est sur des choses qui sont très morcelées, très décousues. Le premier qui va être pénalisé, ça va être l'enfant, mais du coup, ça va aussi entraîner une perte de sens de l'action des animateurs. Et là, et c'est là qu'on va voir, on va avoir des turnovers, des gens qui ne vont pas rester. Des choses qui vont être très décousues et qui font qu'on reste aussi dans cette spirale un peu négative d'un turnover, de gens qui ne veulent pas s'engager, une difficulté aussi après à reconnaître la valeur du travail et l'importance de ces temps, les temps périscolaires, les temps extrascolaires viennent en complémentarité avec les temps scolaires, les temps familiaux, mais j'ai presque envie de dire à niveau égal, en tout cas en termes de durée et de temps pour un enfant, on est quasiment sur la même répartition.
J'aimerais qu'on revienne maintenant un peu plus avec toi, Jimmy, sur ce qui fait qu'on se tourne vers une activité d'animateur jeunesse. Alors parle-nous un petit peu de ton parcours à toi. Qu'est-ce qui t'a guidé vers cette activité ?
Alors moi, mon parcours, dans un premier temps, on va dire que c'est un peu un parcours basique d'animateur. Sauf que, en fait, dans mon temps scolaire, en fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac pro service de proximité vie locale. C'était un bac déjà lié au métier du social et de l'animation. Alors moi, j'avais aucune expérience dans l'animation quand je suis rentré en seconde dans ce bac pro. Et à mes 17 ans, en fait, c'était ma mère qui m'avait dit « Ouais, voilà, tu as l'âge de passer le BAFA, je pense que ça serait bien pour toi. » Et il fallait un peu d'argent aussi pendant les vacances et tout ça. Du coup, je me suis inscrit au BAFA, j'ai fait mon premier stage le stage de base. Et après, j'avais du coup 15 jours à valider en stage pratique. J'avais fait mon stage à EHPAD à l'époque, dans un centre de loisirs de la ville d'Échirolles. ça s'était bien passé, mais sans plus, on va dire. J'avais quand même fait ma dernière partie approfondissement pour valider mon BAFA. Et suite à ça, après, j'ai travaillé à l'Espace Jeune Picasso, qui était la structure de mon secteur, où j'y ai travaillé pendant 4-5 ans en tant qu'animateur vacataire, c'est-à-dire les vacances, uniquement les vacances scolaires dans un premier temps. Suite à l'obtention de mon bac pro, moi je voulais directement enquiller sur un BPJEPS, sauf que c'était compliqué d'entrer en BPJEPS, surtout avec la structure avec laquelle je travaillais, parce que c'était une structure municipale, et les structures municipales ont moins d'aides financières pour employer justement des stagiaires BPJEPS et prendre des jeunes en formation. Du coup, c'était assez compliqué. Donc, à la fin de mon bac, j'ai fait de l'animation périscolaire, où j'ai travaillé pendant à peu près, je dirais, 3 ans en tant qu'animateur périscolaire. J'ai travaillé à Échirolles et à Pont-de-Clé en périscolaire. Du coup, dans différentes écoles, et les vacances, je continuais toujours à travailler à l'Espace Jeune Picasso en tant qu'animateur vacataire. Suite à ça, j'ai eu un contrat, on va dire, un peu plus intéressant, où je continuais toujours le périscolaire, mais sur les temps d'accueil le soir, de 16h à 18h, je les faisais dans ma structure à Picasso, justement, où j'accueillais les plus grands. Et après, mon contrat s'est terminé. Moi, j'avais toujours en tête l'idée de faire un BPJEPS, et je me suis retourné vers la MJC Robert Desnos, qui était une structure que moi, je fréquentais énormément quand j'étais plus jeune, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement artistique, d'accompagnement aussi lié autour du rap, et moi, je fais de la musique depuis longtemps. Du coup, je connaissais bien le directeur de la structure, qui m'a donné ma chance. Et du coup, je suis rentré en BPJEPS, et dans mon BPJEPS, je devais travailler sur un projet d'animation. Du coup, j'ai décidé de travailler sur le domaine de la musique et de l'accompagnement artistique avec les jeunes, autour d'ateliers d'écriture, de mise en voix, etc. Et du coup, à la base, mon projet d'animation, il devait durer 5 semaines sur mon temps de formation. Et en fait, c'est un projet qui a continué tout au long de mon BPJEPS. Suite à ça, on m'a proposé de créer un statut d'auto-entrepreneur pour justement intervenir dans d'autres structures en dehors de mes temps de travail en tant qu'animateur, ce que j'ai fait. Du coup, je suis intervenu sur plusieurs structures, sur Grenoble, sur Échirolles et dans l'agglomération. Et à la fin de mon BPJEPS, je voulais faire une pause, essayer un peu de développer justement cette partie accompagnement artistique, etc. Mais c'était un peu compliqué. Il y a le Covid qui est arrivé aussi un tout petit peu après. Du coup, j'ai travaillé en tant qu'AESH. AESH, c'est aide aux élèves en situation de handicap. Du coup, j'accompagnais des élèves sur le collège Pablo Picasso, qui est justement en situation d'handicap scolaire, beaucoup autour de la dyslexie, etc. Du coup, j'ai fait ça pendant à peu près une année scolaire. Et l'année dernière, pile poil, en décembre dernier, je suis rentré en DEGEPS. Du coup, c'est pareil, c'est la MJC Robert Desnos qui m'a proposé, avec laquelle j'étais toujours en lien, bien évidemment. Et même si je travaillais plus en tant qu'animateur permanent dans la structure, je continuais à travailler les vacances scolaires ou à faire des interventions dans le cadre de mes ateliers. Et ils m'ont proposé de me prendre en DEGEPS. Du coup, à la base, je me voyais pas faire un DEGEPS, ou en tout cas pas aussitôt, parce que ça faisait simplement un an après la fin de mon BPJEPS que j'ai intégré la formation. Mais je me suis dit quand même que ça pourrait être intéressant. En plus de ça, moi, j'avais monté une association avec des jeunes que j'accompagnais pendant mon BPJEPS, qui après sont devenus qui ont grandi, et eux aussi voulaient avoir des responsabilités et était bien branché par tout ce qui était tous les ateliers artistiques que je faisais avec eux. Du coup, à leur tour, eux se sont mis à animer des ateliers comme ça, et on avait décidé de monter une association. Et je me suis dit que justement, le DEGEPS, ça pourrait être intéressant, déjà dans mon parcours initial en tant qu'animateur qui cherche à évoluer. Et en plus aussi avec avec l'association qu'on avait montée en parallèle, il y avait des bonnes billes à prendre dans un DEGEPS. C'est pour ça que j'ai intégré la formation il y a maintenant un an. C'est une formation de 18 mois. Du coup, il me reste 6 mois à peu près encore. Et c'est en alternance et je la fais avec les CMEA.
Alors, je ne te demande pas si ce domaine d'activité te plaît, hein, puisque forcément...
Ah, je connais que ça, en fait.
On le voit. Oui, mais si ça te plaisait pas, tu te serais réorienté, forcément. Par contre, pour terminer, et là, tous les trois, hein, vous pouvez aussi amener vos propres commentaires. Quels conseils on peut donner à des jeunes qui ont envie d'en savoir plus? Quelles sont les premières portes à pousser? Quelles sont les premières portes que toi, Jimmy, tu as poussées? Vers qui se tourner pour avoir des renseignements sur les métiers de l'animation et les aides aussi? Comment on fait pour financer des formations?
Déjà, le conseil que je donnerais à des jeunes qui se posent des questions autour des métiers de l'animation, justement, je leur conseille d'essayer de répondre au maximum à ces questions, de se renseigner. Après, il y a plusieurs portes à pousser. Il y a dans un premier temps, pour les jeunes, il y a généralement dans chaque commune, il y a des points d'information jeunesse ou des bureaux d'information jeunesse qui donnent déjà pas mal d'informations de base sur tout ce qui est les BAFA. Après, ils peuvent se renseigner aussi directement auprès des structures jeunesse de chez eux. Et s'ils veulent encore pousser plus loin, ils peuvent se renseigner aussi auprès des organismes de formation qui encadrent ces types de formations. Je pense que c'est là qu'ils auront les meilleures réponses. Je pense que pour un jeune lycéen, enfin un jeune de 17 ans qui connaît pas encore le monde professionnel et qui est encore dans un monde très scolaire, je pense que l'animation, c'est une bonne première expérience dans le monde professionnel. Après, ils sont pas forcément obligés de continuer dans ce secteur d'activité, mais je pense vraiment que c'est une bonne première expérience parce que malgré que ça soit un champ d'activité professionnel, il y a quand même beaucoup de loisirs et de défoulement, on va dire. Du coup, pour des jeunes lycéens, je pense que dans ma tête, quand j'ai commencé dans l'animation, je me disais c'est un travail, mais il y a des grosses responsabilités, bien sûr, mais je me disais c'est un travail, mais c'est pas si ennuyeux que ça, en fait. Au contraire. Du coup, je pense que, selon moi, c'est une bonne première expérience professionnelle pour un jeune et ça permet aussi d'ouvrir plein de champs de possibilités, en fait. Et ça, je l'ai compris dans mon BPJEPS. C'est que rien n'est dans l'animation, rien n'est fermé et si on a l'envie et la motivation, on peut faire énormément de choses en tant qu'animateur selon ses compétences et ses envies.
Alors, pour conclure sur la partie un peu financement, financer un BAFA ou les autres types de formations dont tu parlais, Jimmy, tout ça peut être pris en charge entièrement à 100% ou est-ce qu'il y a des participations quand même du jeune lui-même ou de sa famille? Tristan, alors, Karine,
Il peut y avoir des prises en charge intégrales pour des jeunes, par exemple, qui sont suivis par la garantie jeune. Il y a un dispositif de l'État qui permet d'accompagner les jeunes dans la découverte des métiers du sport et de l'animation. Et là, tout est intégralement pris en charge. Ensuite, les aides qui existent, elles prennent en charge seulement une partie et parfois pour certains jeunes seulement. Par exemple, l'aide qui est donnée par la CNAF, qui est de 200 euros pour le stage de base, de 200 euros pour le perfectionnement, elle n'est donnée que pour des QF inférieurs à 800. Donc bien souvent, c'est complété par des aides proposées par les collectivités. Cette année, il y a également au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'arrivée prochaine d'une aide de 200 euros pour 20 000 jeunes. Voilà. Mais ça reste un frein réel dans certains cas, effectivement.
Oui, parce que si on prend donc le BAFA, brevet le plus connu dans ces métiers de l'animation, c'est combien aujourd'hui une formation BAFA?
On va dire un cursus global, je dirais au plus cher, ça, le premier stage théorique et deuxième stage théorique, ça pourrait être 700-800 euros, mais je pense que maintenant, il n'y a plus personne ne paye, entre voilà, les plus personne ne paye 800 euros son cursus. Il y a effectivement, comme l'a dit Karine, divers dispositifs d'aide de la CAF. Il y a des aides, nous, je sais qu'au CLC, on rajoute aussi une aide financière, un accompagnement financier pour le BAFA. On accompagne aussi sur la formation professionnelle avec des dispositifs, les contrats d'apprentissage, des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a un enjeu, mais je pense que c'est aussi une responsabilité, ça, des organisateurs. Jimmy a très bien dit, effectivement, inviter les jeunes à aller voir dans les structures. On pourrait conseiller, enfin, renvoyer la même chose aux organisateurs. Ouvrez vos portes aux jeunes, accueillez-les dans une formation, peut-être 5 jours en observation à 15, 16 ans. Il y a plein de choses qui sont possibles sur du conventionnement avec des établissements scolaires, avec divers organismes. Je pense voilà, il y a un enjeu de façon des organisateurs à, enfin c'est une réciprocité quoi. Il faut effectivement, enfin pour moi, il faut que Jimmy, ses parents lui ont dit va passer le BAFA. Je pense qu'il faut que dans 10 ans, dans 20 ans, les parents continuent de dire va passer le BAFA. Mais pour dire ça, il faut avoir vécu une expérience de vie, une expérience collective un peu en dehors de la famille, qu'elle soit à travers le BAFA, qu'elle soit peut-être avant ou après à travers partir en colo. Car il me disait l'importance du départ, et je pense que c'est ça l'enjeu de toutes ces structures, notamment locales, les accueils de loisirs, les accueils périscolaires, c'est comment aussi à partir d'une relation de confiance qu'on va tisser avec les enfants, avec les familles, ça va déclencher aussi à terme, ce qui pourrait être presque la finalité, comment on va emmener les enfants ou les jeunes, les emmener ailleurs. Alors ailleurs, soit physiquement au sens propre du terme, en séjour, ailleurs des fois à travers un spectacle, à travers, voilà, mais cette relation de confiance, et je pense qu'elle est là, la richesse humaine du métier d'animateur, c'est comment je vais, avec effectivement tout un tas de réglementations, de protocoles, de procédures, de réflexions, de bon sens, de positionnement, arriver à faire ce qu'il faut pour faire avancer un enfant, un jeune, et puis de fait, dans une dimension collective, et ça peut paraître utopique, mais on croit à ça aussi, c'est ça qui donne le sens au métier, et qui, je pense, permet qu'il y ait encore... De garantir une cohésion, une forme de cohésion dans une société.
Karine, vous souhaitiez réagir? Du coup, ça sera le mot de la fin.
Oui, simplement, c'est vrai que lorsque les collectivités s'engagent dans cette approche globale et proposent des BAFA qui, en effet, peuvent être intégralement pris en charge sur certains territoires, en échange d'un engagement du jeune à donner un certain nombre d'heures, justement, pour l'animation des centres de loisirs du territoire. Lorsque il y a cet engagement des collectivités, il y a cette boucle vertueuse qui se crée et qui fait que sur certains territoires, il n'y a pas aujourd'hui de problème de recrutement parce que il y a toute cette dynamique qui porte la jeunesse du territoire et qui fait que les jeunes sont présents.
Merci à tous les trois avoir participé à cette émission, à ce deuxième plateau. Merci à Karine pour avoir été là sur l'intégralité de l'émission. Donc je rappelle que nos invités, première partie et deuxième partie, Karine Hennifer des services départementaux de l'éducation nationale, Jean-Yves Chapan en première partie du CMEA Rhône-Alpes et Christophe Domenech de la ville de Saint-Martin-d'Hères. Et puis sur ce deuxième plateau, nous avions Tristan Fromenteau du CLC des Bains et Jimmy Delor, animateur à la MJC d'Esnos. À bientôt à vous tous. Je vous dis à vous qui nous écoutez, bien merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc l'année prochaine, pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi sur News FM. Très bonne journée à tous. Ciao.
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.